Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan, huitième partie. Jusqu'au premier tournant de la route, elle crut ne pas hâter son pas, quand déjà elle courait presque. Au bas de la descente, lorsque les haies dégarnies et les troncs pressés de pommiers lui furent un abri, elle se mit à fuir de toute la vitesse de ses jambes. À l'entrée de campagne, cependant, elle quitta la grande route et prit d'instinct le sentier désert à cette heure et qui lui permit d'atteindre, sans être vue, son jardin. Elle ne pensait clairement à rien, ne désirait rien que se trouver seule derrière une porte bien close à l'abri, seule. Le dehors, l'horizon familier, le ciel même appartenait à son ennemi. Sa frayeur, ou mieux dire son désordre, était telle que, si l'occasion s'en fût seulement présentée, elle eût appelé à l'aide n'importe qui, son père même. Mais l'occasion ne se présenta pas. La cuisine était vide. Elle grimpa l'escalier 4 à 4, poussa le verrou, se jeta en travers de son lit, puis se redressa aussitôt comme mordue, se jeta vers la fenêtre, ouvrit les rideaux et, découvrant son regard dans la glace, fit un arrière-bond de bête surprise. « Est-ce toi, Germaine ?» demandait à travers la cloison Madame Malorty. La glace connut seule ce nouveau regard de mouchette, la grimace frénétique de ses lèvres. Elle répondit d'une voix basse et calme « C'est moi, maman. » Et avant que la vieille femme eût placé encore un mot, elle trouva sans hésiter, sans y penser même, le seul mensonge qui ne fut pas tout à fait invraisemblable. « Cousin Georges m'a reconduite en voiture jusqu'au hameau de Vielle. Il allait au marché de Vielle-aux-Bains. À cette heure ? Il est parti très tôt, parce qu'il embarquait des porcs. Il fallait profiter de l'occasion ou revenir à pied. « T'as pas dîné ?» répondit la vieille. « Je vais te faire un peu de café. » « Justement parce que je n'ai pas dormi, je me couche, » fit Mouchette. « Laisse-moi. »« Ouvre donc, » répéta Madame Malorty. « Non, » cria farouchement Mouchette. Mais se reprenant aussitôt de sa petite voix sèche et dure qui faisait trembler sa mère, « Je n'ai besoin que de dormir. Bonsoir. » Et quand elle entendit décroître, au tournant de l'escalier, le bruit des sabots, ses genoux fléchirent. Elle s'accroupit dans le coin sombre, sans parole, sans regard. Le péril présent n'engendre que la crainte, qui frappe de stupeur le lâche. Elle endort avant que de tuer. La terreur s'éveille plus tard, lorsque la conscience engourdie prend peu à peu connaissance et possession de son hôte sinistre. Le jugement touche le condamné comme la pierre d'une fronde, et le chiourme qui le reconduit à sa cellule ne jette sur le lit qu'une espèce de cadavre. Mais quand il ouvre les yeux, dans la nuit profonde et douce, le misérable connaît tout à coup qu'il est étranger parmi les hommes. Rarement, Mouchette prit le temps de s'observer avec quelque sollicitude. Elle n'y trouve aucun plaisir. Sur un tel sujet, son inexpérience est grande. Elle ressemble à la candeur. Si loin qu'elle remonte dans le passé, elle n'a connu des scrupules et des remords que cette gêne vague, la crainte du péril ou son défi, la conscience obscure d'être pour un moment hors la loi, l'instinct tout entier en éveil de l'animal loin de son gîte sur une route inconnue. À cette minute même, rien ne l'occupe que le danger mystérieux entrevu quelques instants plus tôt, la volonté qui a brisé la sienne, le prêtre ridicule, connu de tous, salué dans la rue, familier, qui lui a vu plier les genoux. Ce souvenir est encore si fort qu'il écarte tous les autres. Elle s'est heurtée à un obstacle, et l'obstacle, c'est ce prêtre. Jadis, une telle évidence eût réveillé sa colère et tendu les 1000 réseaux de sa ruse. Ce qui la tient cette fois face contre terre, c'est la cruelle surprise de ne sentir au fond de son cœur humilié qu'un amer dégoût. un moment, un seul moment. L'idée lui vient, mais si embarrassée de se formuler seulement, briser l'obstacle, répéter le geste meurtrier. Elle l'écarte aussitôt. Elle lui paraît vaine et grotesque, pareille à ces entreprises poursuivies dans les rêves. On ne tue pas pour quelques paroles obscures. Telle est la raison qu'elle se donne. Mais il est plus vrai qu'en l'atteignant dans son orgueil, le rude adversaire a rompu le seul ressort de sa vie. Le danger l'exciterait plutôt. L'odieux ne l'arrêterait pas. Elle craint seulement quelque chose qui pourrait être le ridicule ou la pitié. Comme il arrive parfois, les mots qui lui viennent tout à coup aux lèvres, sans qu'elle les cherche, expriment sa crainte profonde. « Il me croirait tout à fait folle, » murmura-t-elle. « Folle. » Elle arrête ici un long moment sa pensée. Jusqu'alors, même à l'hospice de campagne, elle n'a pas douté de sa raison. Dès le premier instant de lucidité, elle écoutait discuter son cas avec une ironique curiosité. Que savaient-ils ces messieurs de la terrible aventure? Presque rien. L'essentiel demeurait son secret. Elle était, au milieu de ses nouveaux spectateurs, ce qu'elle avait désiré d'être, toujours semblable à son personnage favori, une fille dangereuse et secrète, au destin singulier, une héroïne parmi les couards et les sots. Toutefois, aujourd'hui, à cet instant, qui justifiait sa terreur? Au tournant de la route déserte, elle ne laissait derrière elle qu'un jeune prêtre, rencontré déjà bien des fois, inoffensif en apparence et même un peu sot. Sans doute il a parlé. Qu'a-t-il donc dit de tellement grave? À ce point, l'effort qu'elle fait pour se reprendre, se dominer, ne peut se poursuivre. De minute en minute, il lui paraît cependant plus clair qu'elle s'est trouvée dupe en quelque façon. Elle a pris peur pour un certain nombre de phrases vagues, d'allusions en apparence perfides, peut-être innocentes, maladroitement interprétées. Lesquelles encore? Un mot, dit en passant sur le crime déjà si ancien, presque oublié, un mot fait plutôt pour la rassurer. Vous n'êtes pas devant Dieu coupable de ce meurtre. Elle a beau répéter ces mêmes mots, elle ne retrouve pas la rage humiliée qui, alors, lui travaillait si puissamment le cœur. Puis quoi? Des reproches? Des exhortations à quitter la voie mauvaise? Elle ne se souvient nettement d'aucune. Et enfin, là, sa mémoire tourne court. Cette révélation singulière qui l'a troublée, au point que l'angoisse seule survivante à sa cause, elle ne saurait dire pourquoi elle se blottit dans l'angle du mur, le visage sur ses genoux, toute hérissée de frissons claquant des dents. Là, là est le secret. C'est alors seulement qu'elle a fui. Ce vide affreux s'est alors creusé en elle. Est-il possible, pourtant qu'elle ait fui d'une telle fuite désespérée? De vagues récits empruntés sans doute à la chronique du bourg sur elle et les siens. C'est vrai qu'elle les a crus. Et elle en sait encore assez pour être sûre qu'à un certain moment, elle ne pouvait pas ne pas les croire. Nul doute que la même présence et la même parole la convaincraient à nouveau. Et puis après, n'a-t-elle jamais redouté la haine des sots? Mais qu'a-t-il pu donc rapporter de neuf, ce prêtre? La terreur qu'il a comme tirée hors d'elle-même pour la jeter ici, tremblante, ne vient pas de lui. Elle n'est dupe que d'un rêve, et ce rêve, qu'elle emporte engourdi, peut ressusciter tout à coup. Oh, oh, voilà que déjà son cœur bat et sonne, tandis que la sueur ruisselle entre ses épaules. La houle d'angoisse l'agite, l'affreuse caresse glacée la saisit durement à la gorge. Le hurlement qu'elle pousse s'entend jusqu'à l'extrémité de la place, et le mur même en a frémi. Elle se retrouve couchée à plat ventre au pied de son lit. L'édredon a glissé par-dessous et elle y a enfoncé ses crocs, en sorte que sa bouche est pleine de duvet. rien ne trouble plus le silence, et elle s'avise tout à coup qu'elle n'a crié qu'en songe. À présent, de toutes les forces qui lui restent, elle repousse, elle refoule un nouveau cri, car en un éclair elle s'est vue reconduite à l'hospice, la porte refermée sur elle, cette fois décidément folle, folle à ses propres yeux, de son aveu même. D'abord, elle gémit à petits coups, puis se tut. Parfois, lorsque l'âme même fléchit dans son enveloppe de chair, le plus vil souhaite le miracle, et s'il ne sait prier, d'instinct au moins, comme une bouche à l'air respirable, s'ouvre à Dieu. Mais c'est en vain que la misérable fille userait à résoudre l'énigme qu'elle se propose, ce qui lui reste de vie. Comment s'élèverait-elle par ses propres forces, à la hauteur où l'a portée tout à coup l'homme de Dieu, et d'où elle est présentement retombée? De la lumière qui l'a percée de part en part, pauvre petit animal obscur, il ne reste que sa douleur inconnue dont elle mourrait sans la comprendre. Elle se débat, l'arme éblouissante en plein cœur, et la main qui l'a poussée ne connaît pas sa cruauté. Pour la divine miséricorde, elle l'ignore et ne saurait même pas l'imaginer. Que d'autres se débattent ainsi, vainement serrés sur la poitrine de l'ange dont ils ont entrevu, puis oublié la face. Les hommes regardent curieusement s'agiter, tel d'entre eux marqué de ce signe, et s'étonnent de le voir tour à tour frénétique dans la recherche du plaisir, désespéré dans sa possession, promenant sur toute chose un regard avide et dur, où le reflet même de ce qu'il désire s'est effacé. Deux longues heures, tantôt reployées sur elle-même, sans mouvement, tantôt se tordant à terre dans une rage convulsive et muette, puis encore assommée d'un affreux sommeil, elle crut vraiment perdre la raison, descendre une à une les marches noires. Son destin se retraçait ligne par ligne, elle en parcourait les étapes. C'était comme une suite de tableaux fulgurants. Elle en comptait les personnages imaginaires, elle scrutait leurs visages, entendait leurs voix. À chaque image recherchée, suscitée, volontairement épuisée, elle sentait littéralement frémir ses sens et sa raison, ainsi qu'un frêle navire dans le vent. Toujours sa douleur lucide reprenait le dessus. Elle en était à soulever délibérément en elle les puissances de désordre, appelant la folie ainsi que d'autres appelaient la mort. Mais par un instinct profond, à peine conscient, elle s'interdisait la seule manifestation extérieure qui risqua de briser ses forces. Elle ne poussait aucun cri. Elle étouffait même sa plainte. Un seul témoin de son délire, et c'était assez pour qu'elle perdît pied. Cela, elle le savait. Elle n'appelait point. À mesure que la résistance intérieure, en dépit d'elle-même, s'affermissait, ses gestes devenaient une agitation factice. Sa rage s'exténuait par sa violence même. Elle redevenait par degrés spectatrice de sa propre folie. Quand elle se vit de nouveau respirant fortement, ainsi qu'au retour d'un grand rêve, un calme affreux rétabli dans son âme, sa déception fut totale, absolue. C'était comme la chute brusque du vent sur une mer démentée dans une nuit noire. La même chose ignorée lui manquait toujours, manquait à sa vie. Mais quoi? Mais laquelle? Vainement, elle essuyait ses joues déchirées à coups d'ongles, ses lèvres mordues. Vainement, elle regardait à travers les vitres la lumière de l'aube. Vainement, elle répétait de sa triste voix sans timbre « C'est fini. C'est fini. » La vérité lui apparaissait. L'évidence serrait son cœur. Même la folie lui refusait son asile ténébreux. Non, elle n'était pas folle, ne le serait jamais. Cette chose lui manquait, qu'elle était tenue. Mais où? Mais quand? De quelle manière? Et il était sûr à présent qu'elle s'était jouée depuis quelques instants la comédie de la démence pour masquer, pour oublier à quelque prix que ce fût, son mal réel, inguérissable, inconnu. Ah, parfois Dieu nous appelle d'une voix si pressante et si douce, mais quand il se retire tout à coup, le hurlement qui s'élève de la chair déçue doit étonner l'enfer. C'est alors qu'elle parla du plus profond, du plus intime, d'un appel qui était comme un don d'elle-même, Satan. D'ailleurs, qu'elle l'eût nommé ou non, il ne devait venir qu'à son heure et par une route oblique. L'astre livide, même imploré, surgit rarement de l'abîme. Aussi n'eût-elle su dire à demi-consciente quelle offrande elle faisait d'elle-même et à qui. Cela vint tout à coup, monta moins de son esprit que de sa pauvre chair souillée. La componction que l'homme de Dieu avait en elle suscitée un moment n'était plus qu'une souffrance entre ses souffrances. La minute présente était toute angoisse, le passé un trou noir, l'avenir un autre trou noir. Le chemin où d'autres vont pas à pas, elle l'avait déjà parcouru, si petit que fût son destin. Au regard de tant de pécheurs légendaires, sa malice secrète avait épuisé tout le mal dont elle était capable. À une faute près, la dernière. Dès l'enfance, sa recherche s'était tournée vers lui, chaque désillusion n'ayant été que prétexte à un nouveau défi, car elle l'aimait. Où l'enfer trouve sa meilleure aubaine, ce n'est pas dans le troupeau des agités qui étonne le monde de forfaits retentissants. Les plus grands saints ne sont pas toujours les saints un miracle, car le contemplatif vit et meurt le plus souvent ignoré. Or, l'enfer a aussi ses cloîtres. La voilà donc sous nos yeux, cette mystique ingénue, petite servante de Satan, sainte Brigitte du néant. Un meurtre excepté, rien ne marquera ses pas sur la terre. Sa vie est un secret entre elle et son maître, ou plutôt, le seul secret de son maître. Il ne l'a pas cherché parmi les puissants. Leurs noces ont été consommées dans le silence. Elle s'est avancée jusqu'au but, non pas à pas, mais comme par bond, et le touche quand elle ne s'en croyait pas si proche. Elle va recevoir son salaire. Hélas, il n'est pas d'homme qui, sa décision prise et le remords d'avance accepté, ne se soit au moins une minute rué au mal avec une claire cupidité, comme pour en tarir la malédiction, cruel rêve qui fait geindre les amants, affole le meurtrier, allume une dernière lueur au regard du misérable décidé à mourir, le col déjà serré par la corde, et lorsqu'il repousse la chaise d'un coup de pied furieux. C'est ainsi, mais d'une force multipliée, que Mouchette souhaite dans son âme, sans le nommer, la présence du cruel Seigneur. Il vint, aussitôt, tout à coup, sans nul débat, effroyablement paisible et sûr. Si loin qu'il pousse la ressemblance de Dieu, aucune joie ne saurait procéder de lui, mais, bien supérieure aux voluptés qui n'émeuvent que les entrailles, son chef-d'œuvre est une paix muette, solitaire, glacée, comparable à la délectation du néant. Quand ce don est offert et reçu, l'ange qui nous garde détourne avec stupeur sa face. Il vint, et sitôt venu, l'agitation de Mouchette cessa par miracle. Son cœur battit lentement, la chaleur revint par degrés, son corps et son âme ne furent qu'attentes fermes et calculées, sans impatience inutile, d'un événement désormais certain. Presque en même temps, son cerveau l'imagina, le réalisa pleinement, et elle comprit que l'heure était venue de se tuer, sans aucun délai surtout, à l'instant même. Avant que ses membres n'eussent fait un mouvement, son esprit fuyait déjà sur la route de la délivrance. Après lui, elle s'y jeta, chose étrange, son regard seul restait trouble et hésitant. Toute sa vie sensible était à l'extrémité de ses doigts, dans la paume de ses mains agiles. Elle ouvrit la porte sans faire crier « lui », poussa celle de la chambre de son père, à cette heure toujours vide, prit le rasoir à sa place ordinaire, l'ouvrit tout grand. Déjà, elle était de nouveau chez elle, face à la glace, dressée sur la pointe de ses petits pieds, le menton jeté en arrière, sa gorge tendue, offerte. Quelle que fût son envie, elle n'y jeta pas la lame, elle l'y appliqua férocement, consciemment, et l'entendit grincer dans sa chair. Son dernier souvenir fut le jet de sang tiède sur sa main et jusqu'au pli de son bras. Chapitre 3. C'est à l'église, dans la sacristie dont il avait toujours la clé dans sa poche, que l'abbé Donnisan attendit l'heure de sa messe qu'il célébra comme d'habitude. Depuis quelques jours, M. Menou-Segret gardait la chambre, souffrant d'une crise plus violente d'asthme. Vers 10h30, regardant la route, il aperçut son vicaire et s'étonna, mais déjà les gros souliers résonnaient sur les dalles du vestibule puis dans l'escalier. Enfin, derrière la porte, la voix toujours ferme et calme demanda « Puis-je entrer, monsieur le doyen ?»« Volontiers, » s'écria le curé de campagne, intrigué, « tout de suite !» Il tourna malaisément la tête, calée entre deux énormes oreillers, au dossier du grand fauteuil. Le visage de l'abbé lui apparut mal distinct dans la chambre obscure. Les rideaux étaient encore à demi tirés. Ce qu'il en vit démentait suffisamment le calme affecté de la voix. D'ailleurs, il n'exprima son étonnement que par un battement de paupières sur son regard aigu. « Quelle surprise ! » commença-t-il avec beaucoup de douceur. « Comment êtes-vous déjà de retour ?» Il se gardait bien de montrer un siège, sachant par expérience que, debout devant lui, les bras ballants, la gaucherie du pauvre prêtre doublait sa timidité naturelle, le tenait mieux à sa merci. « J'ai été ridicule, comme toujours, » répondit l'abbé Donnisan. « Enfin, je me suis perdu. » « De sorte que vous êtes arrivé trop tard à Étaples, les confessions terminées. »«
Je n'ai pas encore tout dit, » avoua le vicaire piteusement.
« Par exemple, » s'écria l'abbé Menou-Segret, en frappant violemment l'accoudoir de son fauteuil, avec une vivacité bien différente de ses manières habituelles. « Et que vont dire ces messieurs, je vous le demande ? Arriver en retard, soit, mais ne pas arriver du tout ?»
Si peu soucieux qu'il fût à l'ordinaire de l'opinion d'autrui, il craignait le ridicule d'une crainte nerveuse, qui était comme l'élément féminin d'une nature pourtant assez mâle. Et de quelle moquerie ne serait-il pas l'objet par un détour dans la personne de son vicaire, déjà assez brocardé ? Toutefois, rencontrant le regard de l'abbé Donnisan, d'une magnifique loyauté, il rougit de sa faiblesse et continua paisiblement « Ce qui est fait est fait. J'écrirai ce soir au chanoine pour nous excuser. À présent, dites-moi. » Pitoyable, il montrait une chaise de sa main tendue. À sa grande surprise, son vicaire resta debout. « Dites-moi, » répéta-t-il, sur un ton bien différent de sollicitude et d'autorité, « comment vous vous êtes perdu dans un pays qui n'est tout de même pas un désert sauvage ?» La tête de l'abbé Donnisan restait penchée sur son épaule, et son attitude exprimait un humble respect. Pourtant, sa réponse tomba de haut. « Dois-je vous dire ce que je crois être la vérité ?»«
Vous le devez, » répliqua M. Menou-Segret.
« Je le dirai donc, » poursuivit le vicaire de campagne. Son pâle visage, encore creusé par les terreurs et les fatigues de la nuit, témoignait d'une résolution déjà prise et qui serait infailliblement accomplie. La seule marque de sa honte fut qu'il détourna la tête. Il parla, les yeux baissés et avec un peu de hâte peut-être. « D'ailleurs, la netteté de certains propos, leur hardiesse, le visible souci de ne rien ménager, eussent découvert, même à un observateur moins sagace, le secret espoir sans doute d'une interruption, d'une contradiction violente, qui eût secouru le pauvre prêtre sans le faire manquer à sa promesse. Mais il fut écouté dans un profond silence. « Je ne me suis pas égaré, » commença-t-il. « Au pis-aller, j'aurais pu me perdre à mi-chemin dans la plaine. C'est pourquoi j'ai pris la grande route. Je ne l'ai quittée qu'un instant. Je n'avais qu'à marcher droit devant moi. Même en pleine nuit, car la nuit était noire, je l'avoue, il était impossible de manquer le but. Si je ne l'ai pas atteint, d'autres que moi en porteront la peine. » Il s'arrêta pour reprendre haleine. « Si étrange, si fou que cela vous paraisse, » reprit-il, « il y a plus étrange et plus fou, il y a pis, une autre épreuve m'était préparée. » À ce point, sa voix frémit, et il fit de la main le geste involontaire d'un homme surpris au cours d'un récit par une objection capitale. Son regard se fixa cette fois humblement sur le visage du doyen. « Je vous demanderai, n'y a-t-il aucune faute à rapporter une aventure comme celle-ci, même absurde, à l'interpréter comme il me paraît convenable ?» Il hésita encore. « En m'attribuant involontairement un rôle et des lumières. « Allez, allez !» coupa court l'abbé Menou-Segret. Il obéit, car après un silence pendant lequel il parut plutôt s'efforcer d'éviter tout détour inutile, toute tentation de respect humain. « Dieu m'a permis deux fois, et sans aucun doute possible, de voir de mes yeux une âme à travers l'obstacle charnel. Et ceci, non par des moyens ordinaires, par l'étude et réflexion, mais par une grâce particulière, merveilleuse, dont je dois le témoignage à vous, quoi qu'il m'en puisse coûter. « Que vous tenez pour un miracle ?» demanda l'abbé Menou-Segret sur son ton le plus ordinaire. « Je le crois ainsi, » dit-il. « Vous en rendrez compte à votre évêque, » répondit simplement le doyen de campagne. Il n'y avait d'ailleurs aucune surprise dans le regard dont il enveloppa, littéralement, l'étrange silhouette de son vicaire. Aucune surprise, mais une attention tranquille, indifférente à la personne, à peine curieuse des faits, avec une nuance de pitié hautaine. Le vicaire rougit jusqu'au front. « Qu'avez-vous donc rencontré en plein champ, en pleine nuit ?»« Un homme, d'abord, dont j'ignore le nom. »« Oh !» fit seulement M. Menou-Segret. « Comprenez-moi, » répéta l'abbé Denisant, avec un frémissement douloureux des lèvres. « Il m'a abordé le premier. Je ne pensais à rien de pareil. Je ne voyais même pas son visage. » Je ne connaissais pas sa voix. Nous avons fait route ensemble un moment. Nous parlions de choses insignifiantes, le temps, la nuit, que sais-je. Il s'arrêta, pris du remords de sceller une partie de la vérité à son juge, et brusquement pour en finir, c'est à ce moment que j'ai reçu cette grâce, cette illumination dont j'ai parlé, pour l'autre rencontre. J'en sais assez, momentanément du moins, interrompit le doyen. Le détail importe peu. Il renversa la tête sur l'oreiller, prit avec une grimace douloureuse sa tabatière tout au fond de sa poche, huma sa prise et, levant mollement les mains comme pour s'excuser poliment d'interrompre une conversation ordinaire, « Voulez-vous sonner, Madame Estelle? C'est l'heure où je dois prendre ma potion de salicylate et j'ignore où elle a placé le flacon. » Le flacon fut retrouvé à sa place habituelle. Il but lentement, s'essuya les lèvres avec beaucoup de soin, puis congédia la gouvernante d'un regard affectueux. Lorsque la porte se fut refermée, « On va vous prendre pour un fou, mon garçon, » dit-il. Mais il avait devant lui, il n'en doutait pas, un de ces hommes dont l'expérience est tout intérieure, comme formée par le dedans et dont l'équilibre n'est pas aisément rompu. À peine une légère contradiction des traits accusa-t-elle plus de surprise que de crainte. Il répliqua posément. « Je vous devais cet aveu, » Dieu m'est témoin que je désire l'oubli de tout ceci et le silence. Comptez sur moi, continua le doyen de campagne, pour cacher tout ce qui peut être scellé sans mensonge. Car enfin, je suis votre supérieur direct, mon ami, mais j'ai mes supérieurs, moi aussi. Après un temps, je vais écrire. Non, j'irai plutôt, j'irai voir le chanoine Couvremont, l'ancien directeur du grand séminaire. C'est un confrère très sûr, très ferme. Il avisera. D'ailleurs, je ne doute point que nous ne tombions vite d'accord, lui et moi. Je prévois aisément sa décision. Peut-être attendait-il une question, mais il n'eut pas même un regard. Nous demanderons pour vous une retraite prolongée à Tortefontaine ou chez les bénédictins de Cheftogne. Il vous faut parler franc, l'abbé. Je vous ai cru, je vous crois encore marqué d'un signe, choisi. N'allons pas plus loin. Nous ne sommes plus au temps des miracles. On les craindrait plutôt, mon ami. L'ordre public y est intéressé. L'administration n'attend qu'un prétexte pour nous tomber dessus. De plus, la mode est aux sciences, comme ils disent, neurologiques. Un petit bonhomme de prêtre qui lit dans les âmes comme dans un livre, on vous soignerait, mon garçon. Pour moi, ce que vous avez dit me suffit. Je n'en demande pas plus. J'aime autant ne pas en entendre plus long. » Il étendit les deux mains comme pour repousser ce secret dangereux, puis reposa sa tête au creux de l'oreiller. Mais au premier mouvement de retraite du vicaire, « Attention, je vous interdis formellement d'ouvrir seulement la bouche sur un tel sujet sans mon autorisation préalable, en présence de n'importe qui. N'importe qui, entendez-vous ? Même mon confesseur habituel ? Demanda timidement l'abbé Donisson. Celui-là surtout, répondit l'autre avec tranquillité. Alors le silence retomba plus lourd. Une fois, deux fois, le grand corps du vicaire oscilla de droite à gauche et son regard se tourna vers la porte. Sa main droite tourmentait nerveusement les boutons de sa soutane. Et il entendit soudain, à son grand étonnement, sa propre voix. « Je n'ai pas tout dit, » fit-il. Nulle réponse. Ce qui me reste à dire intéresse, en quelle mesure Dieu le sait, le salut d'une pauvre âme dont nous aurons à répondre, vous et moi. La Providence semble me l'avoir confié nommément, expressément, c'est sûr, car cette personne appartient à votre famille paroissiale, monsieur le doyen. J'écoute, répondit l'abbé Menoussegret, levant lentement les yeux. Pas une seconde, au cours du long récit qui suivit, le lucide et puissant regard ne se détourna de la face ravagée du vicaire. Une espèce d'attention douloureuse s'y pouvait lire, où la claire résolution se formait déjà peu à peu. Pas un mot ne sortit de la bouche serrée, pas un frémissement ne parcourut les longues mains blêmes posées sur les bras du fauteuil, et la tête un peu renversée, le menton haut, resplendissait d'intelligence et de volonté. Lorsque le vicaire eut achevé, le doyen de campagne se détourna sans affectation vers le Christ florentin pendu à son chevet et dit d'une voix à la fois forte et tendre « Dieu soit béni, mon enfant, parce que vous avez si franchement et si humblement parlé, car cette simplicité désarme l'esprit du mal même. » Faisant signe au jeune prêtre d'approcher, il se leva légèrement vers lui, chercha son regard, et face à face, « Je vous crois, » dit-il, « je vous crois sans réserve. Mais j'ai besoin de préparer un moment ce que je m'en vais dire. Prenez sur ma table à droite, là, oui. C'est l'imitation de notre Seigneur. Vous l'ouvrirez au livre 3, chapitre 56. » Et vous prononcerez du fond du cœur, particulièrement, les versets 5 et 6. Allez, laissez-moi. Le vieux prêtre au don magnifique, que l'ignorance, la justice et l'envie avait jadis désarmé, sentit à cette heure unique qu'il consommait son destin. Les comparaisons sont peu de choses quand il faut les emprunter à la vie commune pour donner quelque idée des événements de la vie intérieure et de leur majesté. Le moment était venu où cet homme exceptionnel, à la fois subtil et passionné, aussi hardi qu'aucun autre, mais capable de porter sur toute chose la pointe aiguë de l'esprit, allait donner sa pleine mesure. La honte d'avoir fui la croix, murmura-t-il, répétant de mémoire les derniers mots du chapitre. À présent, écoutez-moi, mon ami. Docilement, le vicaire de campagne quitta le prie-Dieu et se tint debout à quelques pas. Ce que vous allez entendre, dit l'abbé Menou-Segret, vous fera du mal sans doute. Dieu sait que je vous en ai jusqu'ici trop ménagé. Je ne voudrais point vous troubler, cependant. Quoi que je dise, restez en paix, car vous n'avez commis aucune faute, sinon d'inexpérience et de zèle. M'avez-vous compris ? L'abbé hocha la tête. Vous avez agi comme un enfant, continua le vieux prêtre après un silence. Les épreuves qui vous attendent ici ne sont point de celles qu'on peut affronter avec présomption. Plus que jamais, quoi qu'il vous en coûte, vous devez leur tourner le dos, fuir, sans seulement un regard en arrière. Chacun de nous n'est tenté que selon ses forces. Notre concupiscence naît, grandit, évolue avec nous-mêmes. Elle est, comme certaines de ces infirmités chroniques, une espèce de compromis entre la maladie et la santé. Alors, la patience suffit. Mais il arrive que le mal s'aggrave tout à coup, qu'un élément nouveau... Il s'interrompit, non sans quelque embarras vite surmonté. Prenez d'abord note de ceci. Pour tout le monde, vous n'êtes désormais, jusqu'à quand, qu'un petit abbé plein d'imagination et de suffisance, moitié rêveur, moitié menteur ou un fou. Subissez donc la pénitence qui vous sera sûrement imposée, le silence et l'oubli temporaire du cloître, non pas comme un châtiment injuste, mais nécessaire et justifié. M'avez-vous compris encore ? Même regard et même signe. Sachez-le, mon enfant, depuis des mois je vous observe, sans doute avec trop de prudence, d'hésitation. Cependant, j'ai vu clair dès le premier jour. Certaines grâces vous sont prodiguées comme avec excès, sans mesure. C'est apparemment que vous êtes exceptionnellement tenté. L'Esprit Saint est magnifique, mais ses libéralités ne sont jamais vaines. Il les proportionne à nos besoins. Pour moi, ce signe ne peut tromper. Le diable est entré dans votre vie.
L'abbé Donissant se tut encore. Ah, mon petit enfant, les nigauds ferment les yeux sur ces choses. Tel prêtre n'ose seulement prononcer le nom du diable. Que font-ils de la vie intérieure? Le morne champ de bataille des instincts. De la morale, une hygiène des sens. La grâce n'est plus qu'un raisonnement juste qui sollicite l'intelligence. La tentation, un appétit charnel qui tend à la suborner. À peine rendent-ils ainsi compte des épisodes les plus vulgaires du grand combat livré en nous. L'homme est censé ne rechercher que l'agréable et l'utile, la conscience guidant son choix. Bon pour l'homme abstrait des livres, cet homme moyen rencontré nulle part. De tels enfantillages n'expliquent rien. Dans un pareil univers d'animaux sensibles et raisonneurs, il n'y a plus rien pour le saint, où il faut le convaincre de folie. On n'y manque pas, c'est entendu. Mais le problème n'est pas résolu pour si peu. Chacun de nous, ah, puissiez-vous retenir ces paroles d'un vieil ami, est tour à tour de quelque manière un criminel ou un saint. Tantôt porté vers le bien, non par une judicieuse approximation de ses avantages, mais clairement et singulièrement par un élan de tout l'être, une effusion d'amour qui fait de la souffrance et du renoncement l'objet même du désir. Tantôt, tourmenté du goût mystérieux de l'avilissement, de la délectation au goût de cendre, le vertige de l'animalité, son incompréhensible nostalgie. Et qu'importe l'expérience accumulée depuis des siècles de la vie morale, qu'importe l'exemple de tant de misérables pécheurs et de leur détresse. Oui, mon enfant, souvenez-vous, le mal comme le bien est aimé pour lui-même et servi. La voix naturellement faible du doyen de campagne s'était assourdie peu à peu, en sorte qu'il semblait depuis un moment parler pour lui seul. Il n'en était rien pourtant. Son regard, sous les paupières à demi baissées, ne quittait point le visage de l'abbé Denisant. Jusqu'alors, ce visage était resté en apparence impassible. À ce dernier mot, cette impassibilité se dissipa soudain, et ce fut comme un masque qui tombe. « Faut-il donc croire ? » s'écria-t-il. « Sommes-nous vraiment si malheureux ?» Il n'acheva pas la phrase commencée. Il ne l'appuya d'aucun geste, une détresse infinie. Bien au-delà, sans doute, d'aucun langage, s'exprima si douloureusement par cette protestation bégayante, la résignation désespérée de ses yeux pleins d'ombre, que M. Menoussegret lui ouvrit presque involontairement les bras. Il s'y jeta. À présent, il était à genoux contre le haut fauteuil capitonné, sa rude tête aux cheveux courts naïvement jetée sur la poitrine de son ami. Mais d'un commun accord, leur étreinte fut brève. Le vicaire reprit simplement l'attitude d'un pénitent aux pieds de son confesseur. L'émotion du doyen se marqua seulement au léger tremblement de sa main droite dont il le bénit. « Ces paroles vous scandalisent, mon enfant. Puissent-elles aussi vous armer? Il n'est que trop sûr, votre vocation n'est pas du cloître. » Il eut un sourire triste, vite réprimé. « La retraite qu'on vous imposera bientôt sera sans nul doute un temps d'épreuve et de déréliction, très amer. Il se prolongera plus que vous ne le pensez, n'en doutez pas. » D'un regard paternel, non sans un rien d'ironie très douce, il considéra longuement le visage penché. « Vous n'êtes point né pour plaire, car vous savez ce que le monde est le mieux, d'une haine perspicace, savante, le sens et le goût de la force. Ils ne vous lâcheront pas de sitôt. » Le travail que Dieu fait en nous, reprit-il après un court silence, est rarement ce que nous attendons. Presque toujours l'Esprit-Saint nous semble agir à rebours, perdre du temps. Si le morceau de fer pouvait concevoir la lime qui le dégrossit lentement, quelle rage et quel ennui! C'est pourtant ainsi que Dieu nous use. Certaines vies de saints paraissent d'une affreuse monotonie, un vrai désert. Il baissa lentement la tête, et pour la première fois l'abbé Denisant vit ses yeux s'obscurcir et deux profondes larmes en descendre. Tout aussitôt, secouant la tête, « En voilà assez, » fit-il, « hâtons-nous, car l'heure sonnera bientôt où je ne pourrai plus rien pour vous, selon le monde. Parlons à présent bien net, aussi clairement que possible. Rien de meilleur que d'exprimer le surnaturel dans un langage commun, vulgaire, avec les mots de tous les jours. Aucune illusion ne tient la contre. Je passe sur votre première aventure. Que vous ayez ou non vu face à face celui que nous rencontrons chaque jour, non point, hélas, au détour d'un chemin, mais en nous-mêmes, comment le saurais-je? Le vîtes-vous réellement, ou bien en songe? Que m'importe? Ce qui peut paraître au commun des hommes l'épisode capital n'est le plus souvent pour l'humble serviteur de Dieu que l'accessoire. Nul moyen de juger de votre clairvoyance et de votre sincérité que vos œuvres. Vos œuvres rendront témoignage pour vous. Laissons cela. » Il releva ses oreillers, reprit haleine et continua avec la même singulière bonhomie. « J'en viens à votre seconde aventure.
qui n'est pas sans intérêt pour moi-même, il s'en faut. Car une erreur de votre jugement a pu nuire ici à l'une de ces âmes qui, vous l'avez dit, nous sont confiées. Je ne connais pas la fille de M. Malorty. Je ne sais rien du crime dont vous la pensez coupable. À nos yeux, le problème se pose autrement. Criminelle ou non, cette petite fille a-t-elle été l'objet d'une grâce exceptionnelle? Avez-vous été l'instrument de cette grâce? Comprenez-moi, comprenez-moi, à chaque instant il peut nous être inspiré le mot nécessaire, l'intervention infaillible, celle-là, pas une autre. C'est alors que nous assistons à de véritables résurrections de la conscience. Une parole, un regard, une pression de la main, et telle volonté jusqu'alors infléchissable s'écroule tout à coup. Pauvres sots qui nous imaginons que la direction spirituelle obéit aux lois ordinaires des confidences humaines, même sincères. Sans cesse, nos plans se trouvent bouleversés, nos meilleures raisons réduites à rien, nos faibles moyens retournés contre nous. Entre le prêtre et le pénitent, il y a toujours un troisième acteur invisible qui parfois se tait, parfois murmure, et tout soudain parle en maître. Notre rôle est souvent tellement passif. Aucune vanité, aucune suffisance, aucune expérience ne résiste à ça. Comment donc imaginer, sans un certain serrement de cœur, que ce même témoin, capable de se servir de nous sans nous rendre nul compte, nous associe plus étroitement à son action ineffable? S'il en a été ainsi pour vous, c'est qu'il vous éprouve. Et cette épreuve sera rude, si rude qu'elle peut bouleverser votre vie. Je le sais, balbutia le pauvre prêtre. Ah, que vos paroles me font mal. Vous le savez, interrogea l'abbé Menou-Segré, de quelle manière? L'abbé Denisson se cacha le visage dans ses mains, puis, comme honteux d'un premier mouvement, il reprit la tête droite, les yeux sur le pâle jour du dehors. « Dieu m'a inspiré cette pensée qu'il me marquait ainsi ma vocation, que je devrais poursuivre Satan dans les âmes et que j'y compromettrais infailliblement mon repos, mon honneur sacerdotal et mon salut même. » « N'en croyez rien, » répliqua vivement le curé de campagne. « On ne compromet son salut qu'en s'agitant hors de sa voie. » Là où Dieu nous suit, la paix peut nous être ôtée, non la grâce. Votre illusion est grande, répondit l'abbé Denisson, avec calme, sans paraître s'apercevoir combien de telles paroles étaient éloignées de son ton habituel de déférence et d'humilité. Je ne puis douter de la volonté qui me presse, ni du sort qui m'attend. Le regard de l'abbé Menou-Segré eut cette joie du chercheur qui entrevoit soudain la solution longtemps cherchée. « Quel sort vous attend donc, mon fils ?» Le vicaire haussa légèrement les épaules. « Je ne vous demanderai pas votre secret. J'en aurais eu le droit, jadis. À présent, nous changeons de route, vous et moi, et déjà, vous ne m'appartenez plus. » « Ne parlez pas ainsi. » murmura l'abbé Denisson, les yeux sombres et fixes. « Où que j'aille, si profondément que je m'enfonce, oui, dans les bras même de Satan, je me souviendrai de votre charité. » Puis, comme si l'image qui s'emparait de son esprit l'agitait trop douloureusement et qu'il voulut la fuir, ou peut-être l'affronter, il se mit brusquement debout. « Est-ce là votre secret ?» s'écria M. Menou-Segré. « Est-ce là ce que vous prétendez tenir de Dieu? Ai-je bien compris que vous blasphémiez en vous la divine miséricorde? Ce ne sont pas là mes leçons. Entendez-moi, malheureux, vous êtes, depuis combien de temps, la dupe, le jouet, le ridicule instrument de celui que vous redoutez le plus. » Il faisait de ses deux mains levées, puis abaissées, un geste d'horreur et de découragement que démentait l'éclat volontaire de son regard. « Je n'ai pas blasphémé, » reprit l'abbé Denisson. « je n'ai pas désespéré de la justice du bon Dieu. Je croirai jusqu'à la dernière minute de ma misérable vie que les seuls mérites de notre Seigneur sont bien assez grands pour m'absoudre, moi-même et tous avec moi. Cependant, ce n'est pas sans cause qu'il m'a été révélé un jour, d'une manière si efficace, l'effrayante horreur du péché, le misérable état des pécheurs et la puissance du démon. À quel moment ? Commença l'abbé Benoussegré. Mais sans le laisser achever, ou plutôt comme s'il ne se souciait point de l'entendre, le futur saint de l'Indre continuait. De cela, le pressentiment me fut donné jadis. Avant que de connaître la vérité, j'en ai porté la tristesse. Chacun reçoit sa part de lumière. De plus ailés, de plus instruits, ont sans doute un sentiment très vif de l'ordre divin des choses. Pour moi, dès l'enfance, j'ai vécu moins dans l'espérance de la gloire que nous posséderons un jour, que dans le regret de celle que nous avons perdue. Son visage se durcissait à mesure, un pli de colère se creusait sur son front. « Ah, mon père, j'ai désiré écarter de moi cette croix. Est-ce possible? Je la reprenais toujours. Sans elle, la vie n'a pas de sens. Le meilleur devient un de ces tièdes que le Seigneur vomit. Dans notre affreuse misère, humiliés, foulés, piétinés par le plus vil, que serions-nous si nous ne sentions au moins l'outrage? Il n'est pas tout à fait maître du monde, tant que la sainte colère gonfle nos cœurs, tant qu'une vie humaine, à son tour, jette le non serviam à sa face. » Des mots se pressaient dans sa bouche sans proportion avec les images intérieures qui les suscitaient. Et ce flot de paroles chez un homme naturellement silencieux trahissait presque le délire. « Je vous arrête, » dit froidement l'abbé Menoussegré, « je vous ordonne de m'entendre. Vous ne parlez tant que pour vous tromper vous-même et me tromper avec vous. Laissons cela. Mais je sais que vous n'êtes pas homme à vous payer de mots. Cette violence suppose quelque résolution, quelque projet, quelque acte peut-être que je veux connaître. » Ce coup porta si juste que l'abbé Donnisson leva vers son doyen un regard éperdu. Mais le vieillard subtil et fort poursuivait déjà. « De quelle manière avez-vous réalisé dans votre vie des sentiments dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont troubles et dangereux ?» Le jeune prêtre se tut. « Je vous mettrai donc sur la voie, » reprit M. Menoussegré. « Vous commençâtes par des mortifications excessives. Puis, vous vous êtes jeté dans le ministère avec une égale frénésie. Les résultats que vous obteniez réjouissaient votre cœur. Ils eussent dû vous rendre la paix. Cependant, vous ne la connaissiez pas encore. Dieu ne la refuse jamais au bon serviteur, à la limite de ses forces. L'auriez-vous donc délibérément refusée ? Je ne l'ai pas refusée, répliqua l'abbé Donnisson avec effort. Je suis plutôt disposé par la nature à la tristesse qu'à la joie. Il parut réfléchir un instant, chercher à sa pensée une expression modérée, conciliante. Puis, se décidant tout à coup d'une voix que la passion assourdissait plutôt, comparable à une flamme sombre, « Ah, plutôt le désespoir, s'écria-t-il, et tous ses tourments, qu'une lâche complaisance pour les œuvres de Satan. » À sa grande surprise, car il avait laissé échapper ce souhait comme un cri et l'avait entendu avec une espèce d'effroi, le doyen de campagne lui prit les deux mains dans les siennes et dit doucement « C'en est assez. Je lis clairement en vous. Je ne m'étais pas trompé. Non seulement vous n'avez pas sollicité de consolation, mais vous avez entretenu votre esprit de tout ce qui était capable de vous pousser au désespoir. Vous avez entretenu le désespoir en vous. Non, pas le désespoir, s'écria-t-il, mais la crainte. Le désespoir, répéta l'abbé Menou-Segret sur le même ton, et qui vous eût conduit de la haine aveugle du péché au mépris et à la haine du pécheur. » À ces mots, l'abbé Donnisson, s'arrachant à l'étreinte du doyen de campagne et les yeux soudain pleins de larmes, « La haine du pécheur ? » s'écria-t-il d'une voix rauque. La pitié de son regard avait quelque chose de farouche. « La haine du pécheur ?» La violence et le désordre de ses sentiments arrêtèrent la parole sur ses lèvres, et ce ne fut qu'après un long silence qu'il ajouta, les yeux clos sur une vision mystérieuse. « J'ai disposé d'un bien autrement précieux que la vie. » Alors, la voix du doyen de campagne retentit dans le nouveau silence, ferme, claire, impossible à éluder. « Je n'ai jamais douté qu'il y eût dans votre vie intérieure un secret, mieux gardé par votre ignorance et votre bonne foi que par n'importe quelle duplicité. Il y a quelque imprudence consommée. Je ne serais pas surpris que vous ayez formé quelques vœux dangereux. Je n'aurais pu former aucun vœu sans la permission de mon confesseur, balbutia le pauvre prêtre. Si ce n'est un vœu, c'est quelque chose qui lui ressemble, répliqua l'abbé Menou-Segret. Puis, se dressant péniblement hors de ses oreillers, les deux mains posées sur ses genoux sans élever le ton, « Je vous l'ordonne, mon enfant. » Au grand étonnement du doyen, son vicaire hésita longtemps, le regard dur. Puis, avec un frisson douloureux, « Il est vrai, je vous assure. Je n'ai fait aucun vœu, aucune promesse, à peine un souhait, peut-être, sans doute mal justifié, au moins selon la prudence humaine. Il empoisonne votre cœur, répliqua l'abbé Menou-Segret. Alors, secouant la tête et prenant parti, voilà peut-être ce qui mérite vos reproches. La possession de tant d'âmes par le péché m'a souvent transporté de haine contre l'ennemi. Pour leur salut, j'ai offert tout ce que j'avais ou posséderais jamais, ma vie d'abord, cela est si peu de choses, les consolations de l'Esprit-Saint. Il hésita encore. « Mon salut, si Dieu le veut, » fit-il à voix basse. L'aveu fut reçu dans un profond silence. Les paroles extraordinaires parurent créer ce silence, s'y perdre d'elles-mêmes. Alors l'abbé Menou-Segret parla de nouveau. « Avant de continuer, » fit-il avec sa simplicité ordinaire, « renoncez cette pensée à jamais et priez Dieu de vous pardonner. De plus, je vous interdis de parler de ces choses à un autre que moi. » Puis, comme l'abbé ouvrait la bouche pour répondre, le magistral et clinicien des âmes, toujours ferme dans sa prudence et son bon sens souverain, « Gardez-vous d'insister, » fit-il, « taisez-vous. Il ne s'agit plus que d'oublier. Je sais tout, l'entreprise a été irréprochablement conçue et réalisée de point en point. Le démon ne trompe pas autrement ceux qui vous ressemblent. S'il ne savait abuser des dons de Dieu, il ne serait rien de plus qu'un cri de haine dans l'abîme, auquel aucun écho ne répondrait. Bien que sa voix ne décelât aucune excessive émotion, cette dernière se marqua pourtant à ce signe que l'abbé Menou-Segret prit sa canne au pied du fauteuil, se leva et fit quelques pas dans sa chambre. Son vicaire demeurait debout à la même place. « Mon petit enfant, » dit le vieux prêtre, « que de périls vous attendent. Le Seigneur vous appelle à la perfection, non pas au repos. Vous serez de tous le moins assuré dans votre voie, clairvoyant seulement pour autrui, passant de la lumière aux ténèbres, instable. L'offre téméraire a été en quelque manière entendue. L'espérance est presque morte en vous, à jamais. Il n'en reste que cette dernière lueur
sans quoi toute œuvre deviendrait impossible et tout mérite vain. Ce dénuement de l'espérance, voilà ce qui importe, le reste n'est rien. Sur la route que vous avez choisie, non, où vous vous êtes jeté, vous serez seul, décidément seul, vous marcherez seul, quiconque vous y suivrait se perdrait sans vous secourir. Je n'ai pas demandé cela, s'écria le futur saint de l'ombre avec une violence soudaine. Par un contraste véritablement pathétique, sa voix restait sombre et volontaire. Je n'ai pas sollicité ces grâces singulières, je n'en veux pas, je ne désire pas de miracles, je n'en ai jamais demandé. Qu'on me laisse donc vivre et mourir dans la peau d'un pauvre homme qui ne sait ni A ni B. Non, non, ce qui a été commencé cette nuit ne sera pas achevé. J'ai rêvé, j'étais fou. L'abbé Menou-Segret regagna son fauteuil, s'y étendit et répliqua sans élever la voix « Qui le sait ? Lequel d'entre ceux que nous honorons comme nos pères dans la foi n'a été traité de visionnaire ? Quel visionnaire n'a eu ses disciples ? Au point où vous êtes, vos œuvres seules parleront pour ou contre vous ?» Après un moment, il ajouta sur un ton plus doux « Ne suis-je pas à plaindre aussi, mon enfant ? Mon expérience des âmes, une réflexion de plusieurs mois, me porte à croire que Dieu vous a choisi. Les nigauds incrédules n'admettent pas les saints. Les nigauds dévots s'imaginent qu'ils poussent tout seuls comme l'herbe des champs. Peu savent que l'arbre est d'autant plus fragile qu'il est d'essence plus rare. » Votre destinée, à laquelle tant d'autres destinées sont liées sans doute, cela est à la merci d'un faux pas, d'un abus même involontaire de la grâce, d'une décision hâtive, d'une incertitude, d'une équivoque. Et vous m'êtes confié, vous êtes à moi. De quelle main tremblante je vous offre à Dieu. Aucune faute ne m'est permise. Qu'il m'est cruel de ne pouvoir me jeter à genoux à vos côtés, rendre grâce avec vous. J'attendais de jour en jour une confirmation surnaturelle des desseins de Dieu sur votre âme. J'attendais cette confirmation de votre zèle, de votre influence grandissante, de la conversion de mon petit troupeau. Et dans votre vie si troublée, si pleine d'orage, le signe a éclaté comme la foudre. Il me laisse plus perplexe qu'avant. Car il est sûr désormais que ce signe est équivoque, que le miracle même n'est pas pur. Il réfléchit un moment, puis, levant les épaules dans un geste d'impuissance, « Dieu sait que je ne céderai pas à la crainte. Dieu sait que je suis trop tenté d'affronter le jugement d'autrui. On m'accuse volontiers d'indépendance et même d'insubordination. Il y a pourtant telle règle qu'on ne peut enfreindre. Que vous vous déchiriez à coups de discipline, j'y mettrais ordre. Que vous rêviez le diable ou le rencontriez à tous les carrefours, cela me regarde. Mais cette histoire non moins invraisemblable de la petite Malorty m'éclaire. Je ne puis vous laisser libre de parler et d'agir dans cette paroisse selon vos lumières. Je ne puis m'en remettre à vous. Je dois, il est nécessaire que je m'ouvre de tout ceci à nos supérieurs. Mon appui vous sera de peu. D'autre part, vous devrez ne dissimuler rien. Dès lors, qui sait quand vous l'emporterez enfin sur la défiance des uns, la pitié des autres, la contradiction de tous. L'emporterez-vous même jamais ? Me serais-je trompé sur vous ? Ai-je encore trop attendu ? Un vieillard ne peut plus manquer sa vie, mais j'aurais manqué ma mort. » L'abbé Donnisson sortit enfin de son silence. Loin de le confondre, ce dernier doute exprimé lui rendait visiblement courage. Il objecta timidement « Je ne désire rien tant que l'oubli. » L'effacement, la vie commune, mes devoirs d'État. Si vous le vouliez, qui m'empêcherait de redevenir ce que j'étais avant? Qui se soucierait de moi? Je n'attire l'attention de personne. J'ai la réputation que je mérite d'un prêtre bien simple, bien borné. Ah, si vous le permettiez, il me semble que j'arriverais à passer inaperçu, même du bon Dieu et de ses anges. Inaperçu, s'écria doucement l'abbé Menou-Segret. Il souriait, mais avec des yeux pleins de larmes. Toutefois, il s'interrompit aussitôt. L'escalier retentissait du pas singulièrement précipité de la gouvernante. La porte s'ouvrit presque aussitôt, et très pâle, avec cette hâte des vieilles femmes à annoncer les mauvaises nouvelles, « Mademoiselle Malorty vient de se périr, » dit-elle. Et, déjà satisfaite de l'effet produit, elle ajouta, « Elle s'a ouvert la gorge avec un rasoir. » On lira ci-dessous la lettre de Monseigneur au chanoine Gerbier. Mon cher chanoine, j'ai des remerciements à vous faire pour le sang-froid, l'intelligence et le zèle discret dont vous avez fait preuve au cours de certains événements bien douloureux à mon cœur paternel. Le malheureux abbé Donissant a quitté cette semaine la maison de santé de Vaubecourt, où il a été traité avec le plus grand dévouement par le docteur Jolibois. Ce praticien, élève du docteur Bernheim de Nancy, m'a entretenu hier du présent état de santé de notre cher enfant. Il a témoigné de cette largeur de vue et de cette tendre sollicitude que j'ai eu l'occasion d'admirer déjà bien souvent chez des hommes de science que leurs études ont malheureusement détournés de la foi. Il attribue ces troubles passagers à une grave intoxication des cellules nerveuses, probablement d'origine intestinale. Sans manquer à la charité, qui doit être notre règle constante, je déplore avec vous la négligence, pour ne pas dire plus, de monsieur le doyen de campagne. En agissant nettement et vigoureusement, il nous eût sans doute évité de paraître momentanément en conflit avec les autorités civiles. Toutefois, grâce à votre judicieuse intervention et après un premier malentendu vite dissipé, monsieur le docteur Gallet a usé vis-à-vis de nous de la plus haute courtoisie en nous aidant à limiter le scandale. Par ailleurs, son diagnostic a été confirmé par son éminent confrère de Vaubecourt. Ces deux traits font autant d'honneur à son caractère qu'à ses connaissances professionnelles. Le témoignage de Mademoiselle Malorty, les confidences faites en pleine démence ou dans la période de pré-agonie, n'eussent pas suffi sans doute à compromettre dans la personne de M. Donissant la dignité de notre ministère. Mais sa présence au chevet de la mourante, en dépit de la protestation formelle de M. Malorty, ne devait être en aucun cas tolérée par M. le doyen de campagne. J'accorde que ce qui a suivi ne pouvait être prévu d'un homme sensé. Le désir de cette jeune personne, manifesté publiquement, d'être conduite au pied de l'église pour y expirer, ne devait pas être pris en considération. Outre que le père et le médecin traitant s'opposaient à une telle imprudence, ce qu'on sait du passé et de l'indifférence religieuse de Mademoiselle Malorty autorisait à croire que, déjà soignée jadis pour troubles mentaux, l'approche de la mort bouleversait sa faible raison. Que dire de l'altercation qui a suivi? Des étranges paroles prononcées par le malheureux vicaire. Que dire surtout du véritable rapt commis par lui lorsque, arrachant la malade aux mains paternelles, il la portait tout ensanglantée et moribonde à l'église heureusement voisine. De tels excès sont d'un autre âge et ne se qualifient point. Grâce au ciel, le scandale a heureusement pris fin. De bonnes âmes, plus zélées que sages, attiraient déjà l'attention sur cette conversion in articulo mortis, dont l'invraisemblable nous eût couvert de ridicule. J'y ai mis bon ordre. Notre solution a contenté tout le monde, à l'exception sans doute de monsieur le doyen de campagne, qui, en se refermant dans son silence dédaigneux et en nous refusant son témoignage, s'est montré pour le moins singulier. Sur mes instructions, monsieur l'abbé Denisson est entré à la trappe de Tortefontaine. Il y restera jusqu'à confirmation de sa guérison. J'accorde que sa parfaite docilité plaît dans sa faveur et qu'il y a lieu d'espérer que nous pourrons un jour, ces faits regrettables tombés dans l'oubli, lui trouver un jour un petit emploi en rapport avec ses capacités. 5 ans plus tard, en effet, l'ancien vicaire de campagne était nommé curé des servants d'une petite paroisse au hameau de Limbre. Ses œuvres y sont connues de tous. La gloire, auprès de laquelle toute gloire humaine pâlit, alla chercher dans ce lieu désert le nouveau curé d'Ars. La deuxième partie de ce livre, d'après des documents authentiques et des témoignages que personne n'oserait récuser, rapporte le dernier épisode de son extraordinaire vie.